Nous continuons notre série Tchernobyl en héritage avec le premier de deux documentaires enregistrés tout récemment en Ukraine.
Et en France, on se souvient que la nouvelle avait mis du temps à parvenir.
Mais pas seulement en France, Hervé. L'accident s'est produit lors d'un exercice visant à vérifier ce qui se passait en cas de défaillance du réseau électrique. Une série d'erreurs ont été commises. Les techniciens, comme le directeur, M. Bryukhanov, réveillés à 1h30, tergiversent. Le ministère de l'Énergie est prévenu à 4h, avec l'hypothèse que le cœur du réacteur n'est probablement pas endommagé. Le directeur appelle les pompiers de Pripyat, ville à 3 km de la centrale. Ils arrivent en tenue normale. Ils seront tous lourdement irradiés. Vladimir Pravik et les pompiers de son équipe sont tous morts à l'hôpital numéro 6 de Moscou. Quant aux habitants de Pripyat, ils ne seront évacués que 30 heures plus tard. Dans cette zone de silence aujourd'hui, les meutes de loups se sont partagées les territoires, y inclus les maisons abandonnées.
La catastrophe a fait au moins 2000 morts. C'est un haut responsable du Pentagone qui l'a révélé tout à l'heure. Depuis samedi, un satellite espion américain KH-11 transmet des images.
Tchernobyl en héritage.
Le toit du réacteur a été soufflé. Des pans entiers des murs entourant le réacteur se sont écroulés.
Se souvenir, transmettre la catastrophe. Marie Chartron, Vincent Deck. 26 avril 1986, Kiev, arrondissement de Choulavka, il neige. Cela a duré une minute, deux peut-être. C'était presque un jour d'été, baigné de lumière, les arbres étaient en fleurs. Je me souviens des flocons se posant sur le col de ma veste et je riais de surprise comme tous ceux qui étaient autour de moi. Mais je remarquais ensuite que les flocons disparaissaient curieusement, sans laisser la moindre trace d'humidité. Si l'on me demandait un souvenir de beauté absolue, de beauté inhumaine, celle dont rêvaient les romantiques, je citerai ces quelques minutes de neige radioactive le 26 avril 1986 sur la place de la Victoire à Kiev. Nous commençons tout juste à tâtonner à travers les mots, à remplir avec eux la zone de silence. Nous ne devrions plus perdre trop de temps pour le faire. Je n'ai rien écrit sur Tchernobyl pendant 25 ans. Pas une seule fois mes compatriotes ne m'ont demandé pourquoi. Seuls les étrangers me l'ont demandé, assez régulièrement. Les Ukrainiens ne savent que trop bien ce que veut dire cette zone de silence et combien il est difficile de trouver le chemin pour en sortir. C'est avec ces mots que l'écrivaine Oksana Zabushko commence à explorer l'héritage collectif de Tchernobyl en Ukraine. Comment le transmettre? Comment montrer un événement quand il s'agit d'une catastrophe dont on ne peut circonscrire les conséquences?
C'est la centrale de Tchernobyl avant l'accident.
La maquette s'obscurcit et il y a des lumières qui s'allument, donc on comprend que c'est la nuit de l'accident.
Nous savons que l'avarie, le взрыв произошел ночью. L'accident a lieu la nuit et là c'est le moment où il y a l'explosion, il y avait deux explosions. Et là, ça c'est déjà le jour.
Вертолеты уже 27-го утром летели на реактор. Было принято решение.
Les hélicoptères déjà dès le matin de l'accident et la décision a été prise de jeter sur le réacteur les matériaux pour le renfermer en quelque sorte pour que la radioactivité ne pénètre pas dans l'air.
Au début, en fait, le 26 avril, pas spécialement quelque chose de spécial, parce qu'on ne savait rien, il n'y avait pas d'informations, qu'il y avait un accident. On ne savait pas grand-chose, ce qui était bizarre, que en fait, le transport urbain a disparu. Il y avait, par exemple, un itinéraire qui passait pas loin de chez moi, il n'y avait plus de bus pour assurer cet itinéraire. En fait, il s'est avéré après que ces bus ont été envoyés à Pripyat pour évacuer des gens. En fait, on était un peu perdus, et c'est seulement, il me semble, que c'était début mai, peut-être le 6 mai, que le ministre de la Santé a intervenu à la télé, il a expliqué les précautions à prendre, qu'il fallait faire le nettoyage humide partout, en rentrant chez soi, laver les cheveux, se laver en fait tout le temps, essuyer la poussière. Et je m'en souviens parce que moi, je fais la collection des poupées. J'ai beaucoup de poupées chez moi, les poupées habillées en costume traditionnel. Et en les regardant, je me suis dit, bon, c'est pas possible de les nettoyer. Alors, je les ramassais tous et je les ai mises dans un sac. J'ai fermé ce sac. Et là, quand même, certaines précautions ont été prises. La ville, les rues, il y avait des camions d'arrosage qui passaient tous les temps pour nettoyer la ville. Après, dans les magasins, à l'entrée des magasins, il y avait les serpillères humides partout. Et les gens, pas tous, mais il y avait des gens qui prenaient de l'iode qu'on utilise pour soigner les plaies, mais ils le faisaient dissoudre dans l'eau et ils le buvaient parce que les pastilles d'iode n'étaient pas distribuées du tout à Kiev. Et les gens buvaient du cabernet, oui. Le vin rouge, et c'est vrai que c'était l'époque de la pénurie complète. Il manquait de tout dans les magasins, mais bizarrement, il y avait du vin rouge. Et dans la ville, il y avait une sorte de panique parce que les gens voulaient quand même quitter, pas tout de suite, mais 2-3 jours après l'accident. Et les gens voulaient quitter la ville, surtout emmener leurs enfants de la ville. Et au guichet, pour les trains, pour les avions, partout, il y avait les queues énormes. Et parfois, les gens confiaient leurs enfants aux gens qu'ils connaissaient à peine pour qu'ils les transfèrent ailleurs, là où ils avaient peut-être de la famille ailleurs. Et finalement, le 15 mai, les calls ont été arrêtés. Et si les parents le voulaient, ce n'était pas obligatoire, les enfants ont été emmenés dans les colonies de vacances vers la mer en Crimée, par exemple, ou ailleurs. Et ça faisait l'impression bizarre parce que les villes étaient vides, vraiment. Il n'y avait pas d'enfants dans la ville. Bon, voilà, ça s'est calmé, les gens continuent à vivre ici. Que faire? C'est seulement le 15 mai que Gorbatchev, le secrétaire général du parti, il a intervenu à la télé et il a dit qu'il y avait cet accident. Mais c'est quand même pas mal de temps qui est passé.
Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Огромную долю работы и ответственности взяли на свои плечи партийные, советские и хозяйственные органы Украины и Белоруссии.
Сегодня в Украине на сегодняшний день пострадавших от Чернобыльской катастрофы на учете
le registre national compte 2 500 000 personnes qui sont considérées comme ceux qui ont souffert de la catastrophe. C'est aujourd'hui en Ukraine.
А ведь переселено было в 86 году 160 тысяч людей только в
86 году. И потом в течение 160 тысяч персон, которые ont été déplacés et évacués. Et après, durant 10 ans, ces évacuations et le délogement des gens continuaient parce qu'au début, on ne savait pas exactement quel territoire était vraiment contaminé où la radioactivité était très forte. Et durant 10 ans, après la catastrophe, il y avait encore 200 000 personnes qui ont été évacuées.
Comment transmettez-vous cette mémoire et cette histoire au musée de Tchernobyl, Anna Korolevska?
Nous, la grande conception, c'est que nous racontons et l'histoire de liquidation et passage.
Pour transmettre tout d'abord dans notre musée, ce que nous faisons, c'est on transmet tout ça à travers des destins des gens qui avaient vécu là-bas, qui avaient travaillé là-bas, qui ont souffert de cette centrale. Le musée chez nous, c'est tout d'abord historique, c'est la vie des gens.
Là,
on voit des objets personnels des travailleurs de la centrale, des gens qui, au moment de l'accident, ils étaient sur place, qui se trouvaient dans la centrale. Là, il y a la photo de Yuri Korneev,
Il a travaillé dans l'hôtelier de Turbine, là où le taux de radioactivité était jusqu'à 1000
röntgens.
Et sur 14 personnes de l'équipe qui travaillaient là-bas, 8 étaient déjà morts au mois de mai de 86.
Но авария была настолько масштабна, что ликвидировать ее за одну ночь, конечно,
cet accident, il avait atteint l'échelle que mise en état de ce site a été commencée déjà la nuit du 26 avril et ça continue jusqu'à aujourd'hui.
91 года в ней приняло участие больше
6000 personnes avaient participé à la mise en état, la liquidation des conséquences de l'accident.
Каждый второй в погонах.
Un sur deux, c'était un militaire.
Рядом третьего блока и машинного зала упали обломки радиоактивных конструкций, графит. И вот посмотрите, вот это план крыши.
И les photos ici, c'est le toit du réacteur 3, la salle de machine. Parce que sur le toit de ce réacteur, il y avait de gros morceaux de graphite, de matériel radioactif qui sont tombés. C'est les zones les plus radioactives.
Они должны были вручную собрать это руками вот и лопатами.
Et ils devaient ramasser tous ces morceaux avec les mains et avec des pelles seulement.
Работали по полторы минуты.
Et ils travaillaient seulement une minute trente secondes seulement.
Поэтому это 10 где-то тысяч человек вот этих молодых ребят прошло через вот такую работу.
Alors au total c'était 10 000 personnes, ces jeunes gens qui ont fait ce travail.
Est-ce que vous avez l'impression, Anna Korolevska, que quand les visiteurs sortent d'ici, ils emportent une histoire vivante, c'est-à-dire que Tchernobyl existe encore?
Наша задача не напугать, а наоборот научить. Жить с радиацией, потому что это неизбежно.
Notre objectif, ce n'est pas faire peur, mais apprendre plutôt aux gens comment vivre avec la radioactivité. Nos enfants, ils seront obligés de vivre avec la radioactivité et apprendre et prendre des mesures de précaution et de sécurité.
Другого пути нет.
Il n'y a pas d'autre chemin.
On quitte le centre de Kiev pour se diriger vers Troïechina, au nord de la ville. C'est un immense quartier construit à l'époque soviétique. Cela ressemble à une île de hautes tours un peu vieillies, à l'écart de la capitale. Et c'est là qu'ont été relogés la majorité des habitants évacués de Pripyat, c'est-à-dire la ville des travailleurs de la centrale. Entre les immeubles, sur une longue esplanade, on passe devant le monument au liquidateur. Il est entouré de petites barrières métalliques, où court le symbole de l'atome. Et comme son original, à Pripyat, il représente Prométhée offrant le feu, en l'occurrence, l'électricité à tous les foyers.
C'est un peu le quartier type de ce qui a été construit à l'époque soviétique, les années 1970-1980. C'était un peu le quartier modèle socialiste. Ça ressemble à d'autres quartiers comme celui-ci où il est impossible de reconnaître je suis là ou dans un autre quartier de ce type. C'était construit vraiment pour loger des gens.
J'ai 22.
Non. Бальзака.
On va rencontrer les personnes de l'association Zemlaki, qui est cette association dite des compatriotes, c'est-à-dire les personnes évacuées de Pripyat qui ont été relogées ici à Troïechina.
Зеленый с лимоном. Мохито. Мохито.
Работал на станции дозиметристом. Непосредственно участвовал с самого первого дня в ликвидации.
Грузили
первые вертолеты, которые сели на пляже на городском.
Après la catastrophe, j'étais ce qu'on appelle chez nous le дозиметристе, c'était pour mesurer le taux de radioactivité.
Et
j'ai cueilli les hélicoptères qui se sont atterris sur la plage, parce que cette plage se trouvait à 1,5 km du réacteur accidenté. Et au début, on essayait de jeter du sable et du plomb à partir des hélicoptères sur le réacteur.
По-моему, два полка, по-моему, авиации. Но летчики менялись.
Il y avait quatre régiments d'aviateurs.
Со всего Советского Союза.
И les aviateurs, les pilotes, ils venaient de toute l'Union soviétique. Ils absorbaient la dose de 25 рентген et après ils repartaient. Он жетал сак до 10 тонн.
Были даже летчики из Афганистана, все летчики.
Même il y avait des pilotes qui avaient fait l'Afghanistan, la guerre de l'Afghanistan, et ils disaient que en Afghanistan ils avaient moins peur qu'à Tchernobyl.
5 мая нас 40 человек первых добровольцев уже отправили всех в больницу, все уже лежали в больнице.
Et le 5 mai nous, quelques personnes, des volontaires, ont été déjà envoyés à l'hôpital. On était déjà tous hospitalisés.
Всю ночь нас отмывали в бане, часа два мы мылись
Quand
в бане.
On est arrivé à l'hôpital, au début,
отобрали у нас
on s'est levé pendant deux heures, et tous les vêtements étaient retirés, toutes nos affaires, et même si quelqu'un avait de l'argent, ils ont pris notre argent et l'argent, les billets aussi, ils étaient remplacés par d'autres. Ce qui nous ont autorisé à garder, c'est seulement les montres, mais sans bracelet.
Я перенес две операции на сердце. Первая
Je me suis fait opérer deux fois à cause de maladie cardiaque. C'était sur le cœur. Et la première fois, l'opération a coûté 1 000 dollars. La deuxième fois, l'opération a coûté 2 500 dollars. Et les retraites sont très basses. Il a fallu payer, donner tout ce que j'avais économisé.
Реально вспоминает про нас власти только в годовщину.
Réellement, l'État pense à nous seulement le jour d'anniversaire de Tchernobyl. C'est le 26 avril que nous sommes encore en vie.
Мы жили в Припяти. Моя семья, я жена.
Alors, j'habitais la ville de Pripyat avec ma famille, ma femme, j'avais trois enfants, et mes parents aussi. Et le jour de l'accident, mon père, il était sur le chantier, sur le site. En fait, il a vu l'explosion du réacteur, c'était devant ses yeux.
Et
en fait, mon père, il a absorbé presque 400 рентген, c'est déjà la maladie de rayonnement. C'est presque la dose mortelle.
Всего их там было сторожей.
Il y avait ici gardiens et
non,
six mois après, il restait une seule personne en vie, c'est mon père.
Et est-ce que vous êtes retourné à Pripyat ou aux alentours?
Дело в том, что наша организация и вообще в районе мы организовываем
notre association, en fait, pour le 26 avril, nous organisons les voyages là-bas.
Ну вот в моей семье, например, лично я съездила туда после аварии один раз. В 87 году я хотела
ее забрать. Je suis allée là-bas une seule fois. En 1987, c'était pour aller dans mon appartement et prendre les affaires que je voudrais amener. C'était surtout des livres et des documents.
Но я когда зашла в квартиру, это такое было тяжелое зрелище, что мне стало плохо. Я,
mais quand je suis entrée dans mon appartement, le sentiment, c'était tellement difficile, tellement émouvant que je sentais malaise et je ne voulais plus rien. Et j'ai pris seulement les albums avec des photos, mes documents, je suis repartie, je n'avais plus envie d'y revenir. En fait, ça, c'est très dur de supporter tout ça.
Мои дети, когда стали уже взрослыми, когда случилась авария, моей дочке было 12 лет, а сыну было 17 лет. Он только закончил школу.
Оливуар, поскольку мы из этой ляба, мой фils il avait 12 ans au moment de l'accident, ils ont voulu aller voir cette ville de Pripyat parce que c'était quand même l'endroit où ils étaient nés, c'est leur patrie et c'est comme s'ils avaient perdu leur patrie. Ils se sont allés, ils ont fait des photos, mais ils n'avaient plus d'envie de revenir. C'est trop difficile.
Больше желания у них поехать нет, потому что очень тяжело, очень тяжело.
C'est une véritable ville fantôme que nous avons découvert hier à quelques kilomètres seulement de la centrale de Tchernobyl. Imaginez des dizaines d'immeubles entièrement vides, de longues avenues désertes, des magasins à l'abandon, des jardins d'enfants, des écoles d'où ne parviennent plus aucun cri, et un immense stade où poussent des herbes folles. Et surtout, partout, partout, le silence absolu. C'est la cité de Tchernobyl, Pripyat, où habitaient la plupart des employés de la centrale. Le lendemain de l'accident, 51 000 personnes ont dû tout abandonner en quelques heures. On peut voir encore du linge pendant aux fenêtres, et pourtant, depuis 410 jours, la ville est inhabitée. Les autorités ont déversé partout des milliers de tonnes de sable pour remplacer la terre irradiée qui a été évacuée. À Pripyat, il n'y a qu'une seule activité régulière, celle des agronomes de la serre qui a été préservée. On y cultive des fleurs et des concombres pour y étudier les effets des radiations. La nuit, c'est un no man's land entouré de barbelés, dominé par un immense portrait de Lénine. Combien de temps Pripyat restera-t-elle interdite? Des années et des années, nous a dit un responsable de la centrale. De Tchernobyl pour France Inter,
vous allez souvent dans la zone d'exclusion, Galia Ackermann. Vous avez écrit plusieurs livres sur Tchernobyl et vous connaissez bien la ville de Pripyat.
La ville de Pripyat se trouve à 2 km de la centrale et elle a été contaminée, à la différence d'une grande partie de cette zone, par le plutonium. Parce que le plutonium, il s'est posé dans les abords immédiats de la centrale et donc il s'est posé sur toute cette ville de Pripyat. Maintenant, l'isotope du plutonium qui a la demi-vie la plus courte, c'est 24 000 ans. Donc, dans 24 000 ans, la ville de Pripyat sera juste contaminée à moitié par rapport à ce qu'elle est maintenant. Je pense que le retour de vie dans cette ville n'est pas pour demain.
Et quel a été votre sentiment quand vous avez traversé Pripyat, Galia Ackermann?
C'est un sentiment très bizarre. Parce que je suis peut-être moins sensible au charme soviétique de cette ville, parce que je sais que c'était une ville extrêmement privilégiée, qui ne représentait absolument pas la vie ordinaire en Union soviétique dans les années 70 et 80. La vie était de plus en plus difficile, il y avait la pénurie de tout, etc. Donc, la vie en Union soviétique, ce n'était pas la ville à Pripyat. Et peu à peu, la zone est devenue ce qu'elle apparaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu où peu à peu la nature a repris ses droits et même a profité beaucoup de l'absence de l'homme.
Et il y a aussi un immense radar de détection de missiles, Tchernobyl 2.
C'était une énorme installation. La partie qui est conservée, c'est un grillage. Il est haut de 150 mètres et il s'étend sur un demi-kilomètre. C'est-à-dire que c'est quelque chose de monumental et il n'a jamais été décontaminé. Donc maintenant, la zone interdite, elle va se concentrer autour de la centrale et autour de la ville de Pripyat. Et c'est là aussi que se trouvent les grandes décharges. Il y a 1000 sites de stockage de déchets radioactifs, essentiellement provenant de la liquidation, des travaux de liquidation, mais aussi, c'est par exemple le contenu de tous les appartements de la ville de Pripyat et des maisons individuelles, des gens qui ont été évacués et relogés ailleurs. Tout ça a été ramassé et enterré. Il y a aussi de nouveaux sites qui ont récemment été construits. Il y aura le sarcophage et donc on aura une énorme décharge nucléaire, probablement la plus grande décharge nucléaire de la planète.
Не половіть в полі колоски, не ходять люди, м'ячики не скачуть. В Чорнобиль повертаються сказки, самі себе розказують і плачуть. Il n'y a plus de blé sur les champs. Il n'y a aucun être humain qui marche, ni ballon qui sautille. Seuls les contes de fées reviennent à Tchernobyl. Ils se comptent et pleurent. Voici à quoi ressemble la cimetière dans le village de ma grand-mère. Donc c'est une vraie forêt. Et les tombes, c'est la terre. Et donc les gens, ils sont vraiment... ils se retrouvent en harmonie avec la nature. Voilà, donc là, sur cette photo, on voit ma mère qui discute avec sa cousine, laquelle elle voit une fois par an. Parce que malheureusement, après la catastrophe, les gens qui habitaient dans le même village, qui étaient voisins, ils se sont éparpillés dans toute l'Ukraine, mais aussi en Russie, en Biélorussie, dans d'autres pays. Et ma mère, elle dit souvent qu'elle était déracinée. Et sa vie, elle la partage avant Tchernobyl et après Tchernobyl.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est Tchernobyl, Anna ?
Tchernobyl, c'est quand même le fil rouge de ma vie. Et grâce peut-être à cette catastrophe, je suis arrivée sur cette terre un jour. Parce que mon père, il était russe, il était militaire. C'était encore en temps de l'URSS. On avait mobilisé tous les militaires, policiers, pour évacuer les gens et assurer aussi la sécurité dans la zone de Tchernobyl. Et ma mère, elle était justement évacuée. Et ils se sont rencontrés avec mon père lors d'une soirée. Et je suis née en 1988, le 15 octobre, dans la ville de Yessentuki, dans le Caucase du Nord, en Russie actuelle. Malheureusement, mes parents n'ont pas vécu ensemble longtemps et ils se sont séparés quand j'avais un an et demi. Et ma mère a vécu une forte dépression. Elle avait besoin de vivre près de ses parents pour traverser cette période qui était très difficile pour elle, malgré le fait que c'était dans la zone de Tchernobyl.
Mais pourquoi vos grands-parents aussi avaient été évacués ?
Alors mes grands-parents, ils ont fait partie des autres gens qui ont retourné malgré l'interdiction dans leur maison où il était interdit d'habiter pour les adultes, mais encore plus pour les enfants qui sont plus fragiles. Ils portaient le statut, comme on les appelait, les samosurle. Ça veut dire les personnes qui sont revenues par eux-mêmes malgré l'interdiction.
Est-ce que votre mère était sur place au moment de l'explosion ?
Au moment de la catastrophe, le 26 avril 1986, elle était chez ses parents parce que c'était la période où il faisait déjà beau et il fallait planter les pommes de terre. Et il n'y a que voilà, 4 jours après qu'il y a eu les policiers, les militaires qui sont commencés à arriver dans les villages et dire aux gens que voilà, il y a eu l'incendie, il y a eu la radioactivité qui est sortie de la centrale, donc c'est dangereux de rester dans cette zone-là. Et il fallait les évacuer. Donc il leur demandait de prendre juste le passeport et les choses nécessaires, parce que c'était pour quelques jours. Et il y a des gens qui ne sont jamais revenus, qui sont partis pour quelques jours, ils sont partis pour l'éternité.
Et vous, vous y avez vécu. Est-ce qu'il vous reste encore des souvenirs d'enfance ?
Oui, alors, premier souvenir, c'est le fait que dans ce village, il n'y avait que des papy-mamies partout. Il n'y avait pas d'enfants, j'étais la seule enfant dans le village. Pendant 2 ans, je vivais dans un endroit très spécial, qui était coupé du monde actuel. Une chose qui me choquait aussi, c'est le fait de vivre une sorte de jungle, parce que déjà à l'époque, même s'il y avait quand même des gens qui habitaient dans ce village, il y avait beaucoup de maisons qui étaient à l'abandon. Il y avait beaucoup de sangliers également dans le village et aux alentours. Je voyais beaucoup leurs traces de passage.
Est-ce que vous avez souvenir de précautions particulières ?
Oui, oui, ma grand-mère, elle essayait quand même de prendre soin de moi, de faire attention où j'y vais, de me contrôler. Bon, elle me disait déjà de ne pas trop toucher toutes les plantes. quand même on continuait de cultiver le potager et le jardin. Mais les choses à éviter, c'était les baies. Parce que déjà à l'époque, on disait que les baies, les champignons, c'était les fruits et les légumes qui absorbaient le plus la radioactivité. Et je me rappelle une fois, ma grand-mère, elle avait quand même préparé une sorte de raviolis sucrés et avec des baies, des myrtilles.
Et après, une fois que vous êtes partie vivre avec votre mère ailleurs, au sud de Kiev, vous y reveniez dans la zone et dans le village de votre grand-mère, Anna Lavrentieva?
Oui, on essayait d'y revenir régulièrement pendant les vacances scolaires, mais c'était toute une expédition pour y aller. Si je me rappelle aussi de ces moments assez longs et ces soirées passées à Checkpoint, où les gardiens de Checkpoint, les policiers, nous accueillaient toujours assez chaleureusement, pour dire aussi que ma mère, elle était jolie. Je pense qu'ils avaient un peu de pitié pour la mère-fille avec son enfant qui faisait toute cette expédition pour aller voir ses parents. Parce que dans la zone, du coup, il n'y avait pas de transport qui circulait, il n'y avait pas de bus.
Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez un enfant de Tchernobyl ? C'est-à-dire, j'imagine avec un suivi, que vous étiez un enfant particulier, Anna.
C'est vrai que même à l'école, quand on parlait des grands-parents et que je disais que mes grands-parents ils sont dans la zone de Tchernobyl, j'étais considérée comme un enfant de Tchernobyl. Et même les Ukrainiens qui connaissent cette catastrophe, on peut dire de près, ils étaient un peu apeurés.
Mais ça voulait dire aussi être suivi médicalement, être un peu surveillé?
Ma mère, elle était surveillée, elle est toujours surveillée à l'Institut de radiologie à Kiev. Elle y passe régulièrement une bonne semaine tous les ans. Moi, au début, surtout après avoir vécu dans la zone avec ma grand-mère, j'avais passé aussi des tests et surtout le contrôle des glandes thyroïdes. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de problème de ce genre. Cependant, les problèmes que j'ai eu toute mon enfance, c'était plutôt les problèmes respiratoires. Aujourd'hui, je n'ai pas de suivi particulier, mais je pense que s'il y avait des problèmes graves, ils seraient manifestés plus tôt. Et Tchernobyl, ça fait partie de ma vie, de la vie de ma famille. C'est quelque chose aussi...
C'est comme une étiquette qu'on porte toute sa vie.
Oui. C'est non seulement une étiquette, mais je dirais que c'est plutôt un tatouage. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut plus l'enlever presque. Mais ça fait partie de moi. C'est aussi mon histoire.
Два моменти. Я пам'ятаю себе отут. Я стояла, а тут мій чоловік і запитала, то це що, ми вже вмерли.
J'étais là où nous sommes assis, et mon mari, il était à côté devant moi, je lui pose la question, et quoi, nous sommes déjà morts?
І другий момент. Наша подруга прийшла до нас, яка завжди у нас тут
була. Amie est venue, elle était habillée tout en noir. Et elle s'arrête à la porte, elle n'avance plus, elle n'entre pas vraiment dans l'appartement. Elle dit qu'elle ne voulait pas entrer dans l'appartement parce que peut-être elle était radioactive.
Lina Kostenko est l'une des grandes voix de l'Ukraine, dissidente dans les années 50 et 60, et longtemps censurée. Elle nous reçoit chez elle, au milieu des notes manuscrites et d'innombrables photos d'objets collectés en Polésie, dans la zone interdite, qu'elle compare à une Atlantide ukrainienne. Ces dernières années, Lina Kostenko, vous avez consacré beaucoup de votre temps à accompagner des expéditions ethnographiques et à parcourir cette région qu'apparemment vous connaissez très bien.
А Чорнобиль і вся ця Чорнобильська зона, це Полісся, це прекрасні ліси.
Cette cette région. Depuis le lycée, j'aime beaucoup cette région parce que ce sont des forêts.
Les lycées, où nous avons toujours été, parce que j'aime beaucoup les lycées. Вот. И так за тиждень напрацюєшся.
J'aime beaucoup aller dans les forêts. C'était très beau, les arbres, les bois, des grands champignons. C'était très, très joli là-bas.
Et
je me demandais, mais comment c'est maintenant? Et on a décidé d'y aller.
Et nous sommes.
On y est allé et on a vu que les forêts, c'était comme des gens dans les camps de concentration, parce que tout était encerclé avec les barbelés. Et je me suis dit qu'il faut que j'aille de l'autre côté de ce barbelé, à l'intérieur en fait, de cette zone qui était encerclée, parce que quand même, pour savoir comment vivre ces villages maintenant, si quelqu'un est resté, si quelque chose est resté là-bas. Parce que les gens, ils étaient évacués, déplacés, mais les villages, ils restaient. Et 3 jours passent, 6 mois passent, 1 an passe, 2 ans passent. C'était complètement abandonné, et les marauders, ils pénétraient déjà, ils pillaient sa maison. Et je suis allée là-bas.
Так я отримала привілегію, що я могла їхати в зону.
Et comme ça, je me retrouve dans cette zone d'exclusion, avec mon laissez-passer.
Чорнобильська катастрофа.
La catastrophe de Tchernobyl, c'est la catastrophe, c'est la perte de mémoire.
Et, par exemple,
c'est la catastrophe culturelle, tout un strat de la culture qui se perdait, les coutumes, le mode de vie qui existait là-bas. Moi, personnellement, je m'occupais des archives humaines, parce que dans chaque maison, là où on entrait, partout, il y avait des documents humains dans les maisons, parce que c'est les liquidateurs qui habitaient ces maisons après.
Et
là où ils quittaient les maisons, partout, sur le sol, partout dans la maison, il y avait les documents des gens. Là, et moi, je m'occupais de ces documents.
Те, що нам було потрібно, ніхто не
крав. De ce que nous avons besoin, personne ne prenait, parce que nous avions besoin des ustensiles, des objets de vie de cette région de Polésie, des broderies, vraiment les objets de la vie quotidienne. Les objets qu'on trouvait, on les faisait décontaminer.
Qu'est-ce que vous avez écrit à partir de ces découvertes, Lina Kostenko?
Vous savez що? В зоні, словом, Евтерпа там не живемо за поезії. Я написала...
Pour écrire les poésies là-bas, c'est difficile. Chaque poésie, vraiment, ça donne des frissons, et c'était très difficile. C'est pour ça que j'ai écrit plus de prose que de poésie là-bas. La prose fantastique, vraiment. On peut écrire une très belle prose en se basant sur les matériaux que j'ai.
Et toute cette histoire aujourd'hui de Tchernobyl, elle est un peu oubliée, Lina Kostenko?
Non.
Les gens, il semble que les gens, ils oublient petit à petit. Mais moi, personnellement, je ne peux pas oublier. Et toute notre expédition, nous vivons avec ça. Et je voudrais dire aussi que c'est très émouvant tout ça, parce qu'il y a le jour de commémoration des morts, et les gens y reviennent. Je veux dire que c'est les tombes vivantes. Ils viennent avec leurs enfants. Les enfants sont bien coiffés, les filles avec des nœuds dans les cheveux. Et c'est là l'Ukraine. C'est dans des villages morts, mais le cimetière est vivant. Je dis que vraiment l'Ukraine est là. Et elle n'est pas morte, l'Ukraine. C'est la vraie Ukraine là-bas.
Ils ont особливо чувають. Там є Україна. От там, де вона загинула, от там є Україна.
Доброго вечора. Ми вітаємо вас у нашому клубі. Сьогодні перед вами виступає гурт Даха Браха. Скільки б ми не плакали.
Que représente la zone de Tchernobyl? Pour certains, un terrifiant souvenir qui terrassa leur enfance ou leur jeunesse soviétique heureuse. Pour d'autres, la zone de Tchernobyl, c'est la merde radioactive qu'on déblaya en mai 1986. C'est une terra incognita, un territoire de légende peuplé de zombies et de militaires sillonnant des routes défoncées,
à bord de leur blindé vert foncé. Sans oublier, bien sûr, les visites organisées menées par des guides sans scrupules, engrangeant les dollars en débitant des discours pathétiques aux touristes ébahis. Certains y reconnaissent les paysages du fameux jeu vidéo Stalker Call of Pripyat, mettant en scène des héros armés de Kalachnikov, bouffant de la touchonka dans le brouillard matinal des marécages. Pour moi, la zone est mon lieu de détente. Elle remplace la mer, les Carpates. Une vingtaine de fois par an, j'y pars en visiteur clandestin. Je suis un stalker, un piéton, un passant, un idiot, appelez-moi comme vous voulez. On ne me remarque pas, mais je suis là. J'existe, un peu comme le rayonnement ionisant. Est-ce que vous vous retrouvez dans les mots de votre ami Markian Kamish, Miroslav Slaboshpitsky ? Vous, vous êtes réalisateur, vous avez déjà travaillé dans la zone, et aujourd'hui, vous préparez un long métrage, vous vivez une partie de la semaine dans la zone interdite pour faire des repérages, vous la parcourez beaucoup. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette zone ?
C'est difficile de verbaliser parce que, admettons que, par exemple, vous consommez l'héroïne, et moi non, comment on peut transmettre cette expérience ? C'est pareil.
Я имею в виду, что на самом деле на зону, при том, что это достаточно опасное, такое разрушающееся место, где
платят... Il faut dire aussi que la zone, c'est un endroit ennuyeux, nul, où le travail est mal payé, et alors les travailleurs ont seulement deux options. Se bourrer la gueule et se baiser. C'est juste deux solutions pour ne pas perdre la tête et pour ne pas se suicider.
Там есть субкультура сталкеров. Там на самом деле как бы там на специальных форумах достаточно закрытое сообщество, где есть вот субкультура сталкеров.
Il y a une subculture des stalkers, par exemple, des gens qui viennent dans la zone, qui cherchent des émotions fortes en essayant de passer par les checkpoints sans autorisation. Les gens qui ont une idée fixe de trouver des particules de radiation. Mais il faut dire aussi que si on vient dans la zone, une fois là, on devient drogué. On a besoin, presque physique, d'y retourner. C'est la seule explication rationnelle que je peux vous donner sur la zone.
On vous retrouve ici à Kiev, Markian Kamish, dans un parc. Vous êtes de retour de plusieurs jours de voyage dans la zone, un de vos innombrables voyages. Et dans votre livre, vous dites que la zone remplace pour vous la mer, les terrils, les Carpates, tout ce que le monde peut offrir d'exotisme. On sent un attachement qui est très fort, mais qui échappe un peu au reste des mortels, des humains.
Мій батько ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Mon père, il était liquidateur à la centrale nucléaire.
Він працював старшим науковим співробітником в Інституті ядерних досліджень, який знаходиться на проспекті Науки.
Mon père, il était chercheur, il avait travaillé à l'Institut de recherche nucléaire qui se trouve à Kiev et il est parti à Tchernobyl volontairement parce qu'il comprenait les conséquences de cette catastrophe.
А і за 2 роки після цього народився.
Deux ans après moi, j'étais né.
На жаль, зараз я не можу поговорити зі своїм батьком про
Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas demander à mon père ce qu'il pourrait me dire parce que mon père il n'est plus avec nous, mais depuis mon enfance, je m'en souviens que mon père avec ses amis, ils sont dans les cuisines et le mot qui se répétait souvent, c'était Tchernobyl.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un voyage dans la zone?
Уявіть собі повністю спорядження на 7 днів, і ви зрозумієте, що я туди з собою беру. Окрім палатки.
C'est une sorte de randonnée que j'organise.
Палатка вам не потрібна, тому що є дуже багато покинутих будинків у селах і висоток у Прип'яті, в яких ви можете заночувати.
On n'a pas besoin de tente parce que dans les villages et dans la zone, à Pripyat, il y a beaucoup de maisons abandonnées, on peut passer la nuit.
коли спадають на полісся важкі смоли ночі, я перелажу колючий дріт у тому місці, де мене ніхто не помітить.
Et quand les crépuscules tombent sur la région des policiers, alors je passe par le barbelé dans l'endroit où personne ne pourrait me voir. Je traverse des marécages et j'essaie de me dissoudre dans ces marécages pour ne pas heurter le poste de contrôle.
Я намагаюся там не поспішати. Я намагаюся вирвати собі якомога більше часу, аби в Прип'яті чи у кинутому селі я не поспішав.
J'essaie de ne pas me dépêcher parce que à Pripyat il faut au moins 3 jours et demi pour sentir cet abandon.
Vous n'êtes pas seul dans cette zone, Marc-Yann Kamish. Est-ce que vous rencontrez des gens?
Il y a des ferrailleurs qui travaillent légalement. Et ces gens me font penser des ramasseurs de l'époque paléolithique. Et c'est la région dépressive. Et surtout maintenant, après l'accident,
Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Vous vivez comme un ermite contemplatif? Qu'est-ce que vous cherchez?
Я вважаю, що будь-яка мандрівка, а це, по-перше, мандрівка всередину себе.
Je crois que chaque voyage, c'est tout d'abord le voyage à l'intérieur de soi-même.
Це ті враження того спокою.
Et quand on revient de la zone, on a l'impression que les voitures roulent 3 fois plus vite et que les gens courent beaucoup plus vite que d'habitude.
Цей стан, він дуже чарівний.
Peut-être que c'est le meilleur état pour écrire, mais cet état disparaît assez vite.
І це як лід, який тане у тебе в руках.
On peut comparer avec de la glace qu'on a entre nos mains, mais qui fond quand il fait chaud.
Книжка моя, Лязон, це той лід, який не розтанув, який не встиг.
Et mon livre, La Zone, c'est la glace qui n'a pas fondu, que j'ai eu le temps de la porter chez moi.
Nils Ackermann, vous avez mené un long travail photographique à Slavutich, cette ville construite en un temps record pour remplacer Pripyat évacuée. Elle se trouve dans une tache propre, au milieu de la forêt, à l'est de la zone d'exclusion. Et aujourd'hui encore, son destin est intimement lié à celui de la centrale, 30 ans après la catastrophe.
Donc la ville est née pour garder Tchernobyl en état de marche, parce que jusqu'en l'an 2000, la centrale produisait de l'électricité. Et en l'an 2000, ils ont arrêté la production d'électricité, donc ça a causé la perte de nombreux emplois. Heureusement pour la ville, il y a eu ce projet Novarka, qui est de construire une nouvelle arche qui va emballer le quatrième réacteur. L'arche est quasiment finie, en 2017 elle va être glissée sur le réacteur numéro 4, et durant les 100 prochaines années, sous cette arche, il y a des grues qui vont démonter le réacteur. Une fois que le problème de Tchernobyl sera réglé, l'avenir de la ville de Slavutich sera aussi scellé.
Est-ce qu'on parle beaucoup de radioactivité dans la ville?
À Slavutich, j'ai pas senti vraiment une obsession particulière pour ça. Les gens qui font partie de ce projet sont exposés à ça, notamment Kirill, un des personnages, me racontait comment, par exemple, quand il travaille sur le réacteur 4, lui, il est dosimètre, il doit mesurer la radioactivité de certaines pièces qui doivent être enlevées, recyclées. Et en travaillant sur le toit du réacteur, il a détruit plusieurs téléphones portables parce que les rayonnements abîment les composants électroniques. Et quand je lui posais des questions sur comment il voyait son avenir, sa santé, il rigolait, il riait un peu jaune, mais il me dit « Regarde ce que je fume, regarde ce que je bois, c'est pas la radioactivité qui va me tuer. » Et il me dit « Tu sais, ici à Slavutich, on meurt plus de la drogue ou de l'alcool que de la radioactivité. »
Est-ce que vous avez l'impression que Tchernobyl reste dans les esprits?
Je pense qu'il y a différentes visions de ce qui reste de Tchernobyl maintenant en Ukraine. À Slavutich, il y a quelque chose lié à la mémoire qui est très fort, parce que même si une bonne partie des gens qui vivent à Slavutich n'étaient pas des gens de Pripyat, ils savent pourquoi cette ville existe, ils savent qui est mort suite à cet accident. Sur la place centrale, on a un monument en hommage aux premières victimes de la catastrophe. Et quand on va dans le cimetière de la ville, on voit aussi énormément. C'est quelque chose qui se fait beaucoup ici, de graver sur les pierres tombales des symboles qui sont importants pour les gens qui sont décédés. J'ai vu énormément de dessins de la centrale ou de symboles atomiques ou de logos de la centrale de Tchernobyl gravés sur ces tombes. Donc les gens ont un attachement tellement intime à cette centrale qu'ils le gardent comme symbole de leur vie sur leur pierre tombale. Mais on constate aussi, quand on regarde à Kiev, comment la vie continue. On voit qu'il n'y a pas en Ukraine une politique antinucléaire aussi forte qu'on peut la voir dans d'autres pays. L'Ukraine continue à produire de l'électricité avec des centrales nucléaires. Surtout que maintenant l'Ukraine est aussi engagée dans une situation très tendue avec la Russie d'un point de vue énergétique. Ici, il n'y a pas les mêmes questionnements écologiques qu'on peut voir en Europe.
Alexei Pasiuk, vous êtes membre de l'ONG Netsu, le Centre national écologique d'Ukraine. Est-ce que vous avez des relais au sein du gouvernement ?
Нет, вообще-то сейчас, в принципе, скажем так, у зелёных нету представительства во власти.
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de parti d'écologiste au parlement, mais c'est lié un peu au système politique ukrainien parce que les partis, ils ne sont pas idéologiques, c'est comme les projets commerciaux.
Например, партия зелёных, она по сути была проектом одного человека, который держал промышленность тяжелую.
Parce que même le parti des Verts, le parti des écologistes, c'était un projet d'une personne qui gérait toute l'industrie lourde en Ukraine.
On a oublié Tchernobyl.
С одной стороны, мне кажется,
oui,
это должно
мы,
быть такое.
En même temps, la situation actuelle doit rappeler aux gens un peu la situation de Tchernobyl. Il y a plus d'un million de personnes déplacées chez nous à cause du conflit à l'Est. Et nous avons vécu la même situation au moment de la catastrophe de Tchernobyl parce que aussi beaucoup de gens, ils étaient obligés de quitter leurs agglomérations là où ils vivaient. Mais en même temps, il faut reconnaître que ce qui se passe en ce moment, ça préoccupe plus les gens et ça fait oublier Tchernobyl.
Tchernobyl doit nous apprendre que c'est la société civile qui doit prendre ça en main pour le nucléaire. On commence à se rendre compte qu'on a créé, je veux dire l'humanité, des forces qui dépasse complètement l'horizon humain. Quand nous parlons du fait que la ville de Pripyat ne peut être habitée au moins pour 24 000 ans, c'est-à-dire plus jamais habitée en clair, nous sommes confrontés à quelque chose dont on n'était pas conscient dans le passé, parce que, disons, quand il y a une catastrophe naturelle, la destruction peut être beaucoup plus importante qu'à Tchernobyl. Mais ensuite, on reconstruit et les gens reviennent et habitent dans les lieux qui ont été ravagés. On ne peut pas le faire avec Tchernobyl. Et cette idée que le temps humain n'est pas compatible avec le temps des forces que nous avons créées, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, puisque ces forces ont été déjà relâchées, il faut aussi peut-être repenser toute la gestion de ce qui concerne de près ou de loin l'industrie nucléaire.
Tchernobyl en héritage, se souvenir, transmettre la catastrophe. Merci à Tamara Krasitskaya, Nikolai Bielousov et Lyudmila Diatpova de l'association Ziemlaki. À Anna Korolevska, Galia Ackerman, Lina Kostenko, Anna Lavrentieva, Miroslav Slaboshpitsky, Mark-Yann Kamish, Nils Ackerman, Alexei Pasiuk, Volodymyr Udovichenko et Andrei Kurkov. Merci à Larissa Mamounia et Olga Mitronina pour leur aide et leur traduction. Coordination Irène Omelianenko, attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son Raymond Albouy. Un documentaire de Marie Chartron et Vincent Deck pour Sur les Docks.